Radio France Internationale, 13h en temps universel, 15h ici à Paris, c'est l'heure d'un nouveau journal avec Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Dans l'actualité, bientôt un an de guerre entre Israël et le Hamas et les violences se déchaînent au Proche-Orient, en particulier dans les territoires palestiniens et au Liban. La banlieue sud de Beyrouth, qui abrite des positions du Hezbollah, est violemment bombardée par l'armée israélienne, alors que dans la bande de Gaza, des frappes sur une école et sur une mosquée ont fait au moins 26 morts. Au sommaire également, aux États-Unis, Elon Musk vote Donald Trump. Au Brésil, le premier tour des municipales marqué par une confrontation à trois à Sao Paulo. Et en France, le gouvernement Barnier à la recherche de nouvelles recettes pour combler les déficits publics. Cela pourrait passer par une hausse des taxes sur l'électricité. L'armée israélienne affirme avoir tué 12 terroristes dans le bombardement jeudi d'un camp de réfugiés à Tul Karem en Cisjordanie occupée. Les Nations Unies ont condamné une frappe aérienne illégale, tandis que selon l'autorité palestinienne, il y a eu en réalité 18 morts dans ce camp de Tul Karem. L'heure est au deuil dans les familles palestiniennes. Reportage de nos envoyés spéciaux Oriane Verdier et Nicolas Benita.
D'un côté, un tas de décombres. De l'autre, ce qu'il reste de l'immeuble de trois étages traversé par plusieurs missiles israéliens. Au milieu, un groupe de femmes vêtues de noir traverse la scène. Khadija a les larmes aux yeux.
Il y a 2 jours, nous avons perdu un fils. Il avait 18 ans. Il était passé au café après avoir célébré l'anniversaire d'un ami. Il était heureux et quelques minutes plus tard, il est mort. Nous avons simplement entendu une explosion dans le camp. Les gens ont commencé à crier en allant vers la fumée blanche, à chercher dans les décombres, et quelqu'un nous a dit que Rakam était là. Ils ont rapporté une partie de son corps. Il n'avait plus de bras ni de jambes.
L'immeuble touché par la frappe aérienne n'est pas la seule ruine dans ce camp de réfugiés palestiniens devenu petite ville. Autour de Khadija, une maison sur deux à la façade arrachée.
J'espère que les gens à l'étranger voient ce qu'il se passe à Gaza et en Palestine. Les gens dans les camps qui souffrent. Ils détruisent tout, il n'y a plus ni eau ni électricité. Nos enfants sont malades. Ils font tout pour nous faire quitter le camp.
Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a mené de nombreux raids sur les camps de réfugiés de Palestiniens en Cisjordanie. Elle affirme lutter contre les mouvements islamistes palestiniens, mais détruit également les infrastructures et fait de nombreuses victimes civiles. Nicolas Benita, Oriane Verdier, Tul Karem, RFI.
Au moins 26 morts et des dizaines de blessés dans la bande de Gaza. C'est le dernier bilan de frappes israéliennes sur une mosquée, sur une école abritant des personnes déplacées. Au Liban, de nouvelles frappes israéliennes ont visé ce matin la banlieue sud de Beyrouth. Quelques heures après des raids nocturnes très violents sur ce bastion du Hezbollah, le ministère libanais de la Santé fait savoir que les frappes d'hier à travers le pays ont fait un total de 23 morts. Demain, lundi 7 octobre, marquera le premier anniversaire de l'attaque du Hamas sur le sol israélien, attaque qui a entraîné la mort de plus de 2200 personnes, pour la plupart des civils. L'armée israélienne est actuellement en état d'alerte renforcée par crainte d'attentat. Dans un message à l'occasion de cet anniversaire, le président israélien a dénoncé la menace permanente que font peser l'Iran et, je cite, ses mandataires terroristes. Les Israéliens, eux, restent largement mobilisés sur la question des otages. 101 otages se trouvent toujours à Gaza et la mort de 35 a été confirmée. On en vient à la politique aux États-Unis avec un temps fort hier dans la campagne présidentielle, à moins d'un mois du vote. Maintenant, le retour de Donald Trump à Butler dans l'État clé de Pennsylvanie, un peu moins de 3 mois après y avoir échappé de peu à un attentat. Sur scène, il n'était pas seul. Le candidat républicain avait invité un autre milliardaire en la personne d'Elon Musk, Christophe Paget.
Dans les minutes qui ont suivi la tentative d'assassinat, Elon Musk écrivait sur son réseau X qu'il soutenait la candidature de Donald Trump. Pour son retour à Butler, le candidat républicain l'a donc invité et Elon Musk a loué son sang-froid.
C'est la manière de se comporter sous les balles qui révèle vraiment le caractère d'une personne. Et nous avions un président qui ne pouvait pas monter un escalier et un autre qui montrait le poing après avoir été blessé. Se battre avec le visage dégoulinant de sang.
C'était la première participation d'Elon Musk à un meeting de Donald Trump. Il a répété, comme il l'avait déjà écrit sur X, la fausse affirmation selon laquelle les démocrates veulent enlever le droit de vote aux Américains.
Je pense que cette élection est la plus importante de notre vie. L'autre camp essaie de vous priver de votre liberté d'expression. Envoyez des textos aux gens maintenant et assurez-vous qu'ils votent. Sinon, ce sera la dernière élection.
Elon Musk finance en grande partie un comité qui lève des fonds pour soutenir l'ex-président. Il a tout à gagner d'une victoire de Donald Trump. Le milliardaire a déjà répondu favorablement à son idée de créer une commission qui ferait un audit de l'État américain pour couper dans les dépenses fédérales. Donald Trump a même annoncé qu'il mettrait le patron de Tesla à la tête de cette commission.
C'était Christophe Pagé. En Tunisie, le chef de l'État sortant Kaïs Saïed, par grand favori de la présidentielle qui se tient ce dimanche. Un peu moins de 10 millions d'électeurs tunisiens sont appelés à voter. Ils ont jusqu'à 18 heures pour le faire. L'une des rares inconnues est la participation. Elle avait été de seulement 12% aux législatives de l'an dernier. On vote aussi au Brésil ce dimanche, premier tour d'élection municipale. La situation est suivie de près à Sao Paulo, la plus grande ville d'Amérique latine. À Sao Paulo, le duel entre le maire sortant, allié de Jair Bolsonaro, et le candidat soutenu par Lula s'est transformé en combat à trois avec l'irruption d'un outsider populiste, Pablo Marçal. Harim Lippolt a recueilli sur ce candidat d'un genre nouveau l'analyse d'Armel Enders. Elle est professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8.
Le phénomène Marçal est très intéressant parce que c'est une nouvelle. On croyait avoir un peu tout vu des candidats d'extrême droite transgressifs, et là on a encore franchi un palier supplémentaire avec un candidat qui a quand même été condamné pour escroquerie, enfin qui a un casier judiciaire. Ce que Marçal a de plus que Bolsonaro, c'est qu'il touche des catégories que Bolsonaro avait beaucoup plus de mal à toucher. Et notamment un électorat qui était plutôt celui du PT, celui des périphéries, celui des Noirs, aussi des femmes, c'est à la fois une métamorphose qui montre la résistance du bolsonarisme et l'électorat bolsonariste d'origine si se retrouve dans ce personnage.
Élection municipale au Brésil ce dimanche. Le Kazakhstan, lui, se prononce par référendum sur le nucléaire. Les Kazakhs doivent dire oui ou non à la construction de la première centrale nucléaire du pays, un pays d'Asie centrale qui connaît un paradoxe. Il est déficitaire en électricité alors que c'est le premier producteur mondial d'uranium. La France, via EDF, est en lice pour construire cette centrale, tout comme la Russie, la Chine et la Corée du Sud. À propos d'électricité, encore mauvaise nouvelle en vue pour les consommateurs en France. Les factures d'électricité pourraient ne pas baisser comme prévu de 10% à 15% en février prochain. Elles pourraient même grimper pour de nombreux consommateurs. D'après le journal Le Parisien, le gouvernement prévoit d'imposer plus de taxes que prévu sur la consommation électrique afin de boucler son budget. Décision qui, Claire Fage, risque d'avoir un coût social très fort.
Le ministère des Finances renvoie à la présentation du projet de loi de finances prévu jeudi, mais ne dément pas. Selon nos confrères du Parisien, le gouvernement Barnier envisagerait une hausse beaucoup plus importante que prévue de la taxe sur la consommation d'électricité. Ce prélèvement devait, selon les plans de l'exécutif précédent, être rétabli en février à son niveau d'avant la crise des prix de l'énergie, dans le cadre de la fin du bouclier tarifaire. Grâce à l'accalmie des marchés de l'électricité, cela n'aurait pas empêché les Français de bénéficier d'une baisse de 10 à 15% de leurs factures après 45% de hausse en 2 ans. Mais l'alourdissement de la taxe sur chaque mégawattheure consommée remet en question cette promesse. Certains abonnés à une offre de marché pourraient même voir leurs factures grimper encore davantage. Une véritable bombe sociale selon l'opérateur national EDF qui voit se multiplier les dossiers de précarité énergétique et une aberration aux yeux des défenseurs de la transition énergétique parce que cela décourage l'électrification du pays.
C'était Claire Fage du service économie. Un mot de tennis avant de refermer ce journal. Actuellement, le tournoi Masters 1000 de Shanghai en Chine où l'Italien Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, a perdu le premier set contre l'Argentin Echeverry avant de s'imposer au troisième tour. Il a fallu aussi 3 sets serrés au Russe Daniil Medvedev, numéro 5 mondial, pour venir à bout de l'Italien Matteo Arnaldi. Bonne journée sur RFI. Tout de suite, si loin, si proche.